Au Royaume-Uni, le ridicule ne fait mal à personne. Le gouvernement britannique a annoncé lundi 31 janvier dans un communiqué qu'il avait retiré les noms de 4 Iraniens de la liste des sanctions. 3 de ces personnes sont décédées. Le Bureau des sanctions financières du département du Trésor a déclaré dans un communiqué que le ministère des Affaires étrangères avait mis à jour sa liste de sanctions gouvernementales le 28 janvier. Le communiqué ajoute que les 4 personnes suivantes ont été retirées de la liste des sanctions et ne feront plus l'objet de confiscation de biens. Numéro 1, Ahmad Zargar. Numéro 2, Hassan Haddad. Numéro 3, Mohamed Hejazi. Numéro 4, Seyed Hassan Firouzabadi. Monsieur Haddad, Monsieur Hejazi et Monsieur Firouzabadi sont morts de cette liste. Tous ont été placés sur une liste de sanctions britanniques pour leurs allégations de droits de l'homme. Les rapports occidentaux sur les droits de l'homme ont été critiqués pour leur méthodologie incorrecte, leur double standard, leur parti pris et leur mépris du principe de neutralité, leur mépris de la culture et des modes de vie indigènes d'autres communautés et leurs ingérences dans les affaires intérieures des pays. La Grande-Bretagne place d'autres pays sur la liste des sanctions pour des allégations de droits de l'homme, citant des violations des droits des minorités, la promotion de l'islamophobie, la discrimination économique sociale, la situation des prisonniers, l'atteinte à la souveraineté et à l'indépendance des pays et à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Il y a de sérieuses critiques à l'encontre des questions relatives aux droits de l'homme en Grande-Bretagne. Site internet, milliers d'affiches de soutien placardées, mais ceux-ci sont en train d'être récoltés. Europe 1 a divulgué des détails sur la collecte de donations destinées à financer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en cours depuis des mois, alors qu'il temporise à officialiser sa candidature. La campagne présidentielle d'Emmanuel Macron débute déjà, bien qu'elle tait son nom. Europe 1 a ainsi relayé le 31 janvier certains détails concernant l'organisation de dîners de donateurs moyens pour la financer. Comme le précise la radio, les marcheurs suivent la même recette qu'en 2017 afin de récolter des fonds, soit des dîners rassemblant de riches donateurs. De la sorte, poursuit Europe 1, des repas sont organisés le soir en semaine dans des appartements privés de la capitale, ainsi que de l'ouest parisien, et d'ajouter qu'ils se sont multipliés ces dernières semaines avec la participation de certains ministres et secrétaires d'État. Un poids lourd du gouvernement a confirmé à la radio avoir participé à deux rencontres de ce genre la semaine dernière. Un autre membre du gouvernement a confié avoir levé 175 000 euros en l'espace d'une soirée. Toujours selon les informations relayées par Europe 1, le seuil maximal autorisé de donation est de 7 500 euros par personne pour les membres du parti, plus 4 600 euros pour le candidat. Il est en outre précisé que le cérémonial de ces rendez-vous nocturnes est souvent organisé par Christian Dragna, ce qui n'est pas un hasard, puisque cet ancien banquier d'affaires avait déjà travaillé à la levée des fonds de la campagne du candidat Macron en 2017. Déjà en automne 2021, des médias tels que Le Parisien et Le Journal du Dimanche avaient relaté que LREM s'était lancé dans la réactivation des financeurs de la campagne de 2017 avec pour objectif 5 millions d'euros. Une entreprise notamment mise en place par M. Dragna, ancien directeur général de BNP Paribas Asset Management, mais ceci ex-président de l'Association européenne de la gestion d'actifs. À quoi ressemblerait ce débat de premier tour? 12 candidats cherchent pendant 1h50 leur moment avec le président, qui au À quoi ressemblerait ce débat de premier tour? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président, qui aurait 10 minutes pour leur répondre, a indiqué sur un ton sceptique Gabriel Attal le 29 janvier dans un entretien aux Parisiens. Si l'entourage du président sortant ne voit pas l'intérêt pour lui de participer au débat du premier tour, les candidats insiste. Il doit rendre compte de son bilan, qui est calamiteux, de l'état de notre école, de l'état de notre hôpital, de l'état de notre justice, de la violence qui monte dans les rues, de l'immigration qui est incontrôlée, a appuyé Valérie Pécresse, candidate de la droite, dans l'émission Dimanche en politique sur France 3. Demandant solennellement un débat avec Emmanuel Macron, la présidente de la région Île-de-France a espéré qu'il allait accepté. Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, est du même avis, pointant le manque de respect pour les Français et un manque de considération pour la démocratie. Il a estimé que le président sortant reste caché. Le président ne pourra pas se cacher éternellement, comme un candidat masqué a jugé pour sa part le président LR du Sénat, Gérard Larcher. Si le nouveau site avec vous 2022.fr a été lancé depuis quelques jours, le nom d'Emmanuel Macron n'y apparaît nullement. Or, ce même slogan avec vous est actuellement largement employé par les marcheurs, le hashtag étant massivement relayé sur les réseaux sociaux. Il est aussi apparu sur les affiches placardé dans la nuit du 26 au 27 janvier dans 16 grandes villes. Un autre point dénoncé par les opposants alors que la présidentielle démarre dans quelques semaines est le fait qu'Emmanuel Macron a déjà reçu les parrainages de plusieurs parlementaires et élus locaux. Comment parrainer une personne qui n'est pas officiellement candidat? Point d'interrogation, c'est donc il l'est. Il détourne ainsi les règles démocratiques du débat, temps de parole, financement public, etc. Est-ce tolérable? A commenté l'insoumise Alexis Corbière. Le ministre de la Défense hongrois a exprimé son opposition au renforcement de l'OTAN sur son territoire dans le cadre des tensions entourant l'Ukraine. Il a également confirmé l'opposition de Budapest à une éventuelle adhésion à l'alliance de Kiev. Les Hongrois sont courageux, mais ils doivent s'attendre à des réactions négatives de la part des sionistes de l'administration Biden. Dans une interview accordée le 27 janvier aux médias hongrois, InfoRadio, le ministre de la Défense Magyar Tibor Benko a déclaré que son pays ne demandait pas de renfort de troupes de l'OTAN sur son territoire et qu'il s'opposait à une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Le ministre a affirmé que les États-Unis et l'OTAN ont négocié des déploiements supplémentaires de troupes avec tous les États membres de l'Alliance limitrophe de la Russie ou de l'Ukraine. Budapest estime toutefois que sa propre armée est capable d'assurer toute la sécurité dont elle a besoin sans l'aide des troupes de l'OTAN. Sachant que l'OTAN, c'est une armée des États-Unis. Tibor Benko s'est exprimé sur la situation en ces termes. La Hongrie a déjà créé une telle force nationale, développé de telles capacités nationales que, dans la situation actuelle, il n'est pas nécessaire de compter sur d'autres forces et troupes étrangères. Nous ne considérons pas qu'il soit approprié et nous ne demandons pas que des renforts de l'OTAN soient déployés ici. Nous pouvons nous en charger. Le 28 janvier, le président américain Joe Biden avait déclaré à des journalistes qu'il comptait envoyer prochainement un petit nombre de militaires américains en Europe de l'Est. L'Europe de l'Est qui est sous l'occupation des Juifs. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de vive tension entre l'Occident et Moscou autour de la sécurité en Europe. Depuis plusieurs semaines, Washington et certains de ses alliés accusent la Russie d'envisager une invasion du territoire ukrainien, ce que Moscou dément catégoriquement. La Russie, de son côté, exprime ses craintes quant à sa sécurité liée à l'extension de l'OTAN vers l'Ouest et la perspective de livraison d'armement offensif à l'Ukraine. Pays voisin dans ce contexte, Moscou a proposé à Washington et à l'OTAN des traités prévoyant un renforcement de l'Alliance Atlantique, à tout élargissement à l'Est, un retour à l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la guerre froide. Les Occidentaux refusent à ce jour les exigences russes, invoquant le caractère défensif de l'Alliance Atlantique, d'une part, et la souveraineté des États devant rester libre de choisir leur alliance, d'autre part. Pourquoi des soldats américains sont photographiés lance-roquettes en main en Ukraine? Alors que Moscou négocie avec les États-Unis sur les garanties de sécurité, insiste sur le non-déploiement de militaires et d'armements à proximité de ses frontières. Des soldats américains ont été vus sur un champ de tir entraîner des Ukrainiens à détruire des chars russes. Les négociations entre la Russie et les États-Unis sur les garanties de sécurité se sont déroulées il y a une semaine et pourraient être poursuivies cette semaine. À leur menu, les propositions sécuritaires russes qui portent notamment sur le non-déploiement de forces armées et d'armement dans les régions où cela pourrait être interprété comme une menace pour l'autre partie. Dans le cas de la Russie, l'Ukraine est l'une de ces zones, ce qui n'empêche pas les États-Unis d'y envoyer leurs militaires. Ces derniers ont été vus dimanche 30 janvier sur un champ de tir de Lviv, près de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le Daily Mail a publié des photos des soldats de la Garde nationale de Floride qui entraînent les forces ukrainiennes à utiliser des lance-roquettes anti-bunker. Et selon le quotidien britannique, Washington a envoyé une centaine de ses munitions à Kiev dans le cadre de l'aide militaire destinée à dissuader une attaque russe. Environ 200 gardes sont actuellement déployés en Ukraine, où les États-Unis maintiennent une présence militaire depuis 2015. Ils y ont également envoyé 300 missiles anti-char Javelin destinés à détruire les tanks russes, lesquels, selon les médias occidentaux, doivent envahir l'Ukraine du jour au lendemain. L'Estonie va y envoyer les mêmes missiles anti-char, tandis que la Lettonie et la Lituanie livreront des missiles anti-aériens Stinger américains eux aussi. Des systèmes anti-chars portables ont été fournis par le Royaume-Uni. Des militaires britanniques ont également été envoyés en Ukraine pour assurer la formation des forces armées. Moscou assure qu'aucune guerre n'est envisagée. Moscou assure, pour sa part, ne préparer aucune invasion. Le 28 janvier, Sergei Lavrov a affirmé, dans une interview accordée à des radios, que la Russie ne voulait pas de conflit. Si cela dépend de la Russie, la guerre n'aura pas lieu, a-t-il indiqué. Lors de la récente réunion des conseillers des chefs d'État et de gouvernement en format Normandie le 26 janvier à Paris, ceux-ci ont réaffirmé que les accords de Minsk était la base du travail même. Il convient de rappeler que des accords prévoient le retrait de toutes les forces militaires étrangères du territoire ukrainien. Les derniers missiles hypersoniques russes Zircon seront équipés d'ogives nucléaires. Les missiles croisières hypersoniques tactiques russes Zircon seront équipés d'ogives nucléaires dans un proche avenir. Cela augmentera considérablement la puissance de frappe de cette arme. Des informations à ce sujet ont été exprimées dans la publication de Reporter. Selon le journaliste Sergei Marjetsky, l'OTAN représente actuellement une menace claire pour la Russie avec ses tentatives non seulement d'étendre l'alliance dans les pays d'Europe de l'Est l'Est, y compris l'Ukraine et la Géorgie, mais aussi d'augmenter la présence de troupes près des frontières russes. Pour répondre à de telles menaces, la Russie peut facilement transformer des missiles hypersoniques Zircon en armes nucléaires, d'autant plus que le remplacement des ogives, selon les données non officielles, a été prévu par les développeurs russes de ce type d'armes. Selon le journaliste, les missiles hypersoniques Zircon peuvent être beaucoup plus efficaces que le même ARK Kinjal. Cela est dû au nombre considérable de missiles de ce type pouvant être transportés à bord de navires de guerre et à l'avenir de sous-marins. Vous pouvez accrocher un poignard sur un chasseur-intercepteur MiG-31K et le relâcher à un poste de commandement ou à un dépôt de munitions quelque part en Ukraine ou en Europe de l'Est. Un bombardier Tu-22M3 pourra prendre 4 de ces missiles en même temps. Les frégates du projet 22350 Admiral Gorshkov peuvent facilement tirer sur des cibles côtières avec 16 Zircon. Et dans la version 22350M avec 40 vies, missiles hypersoniques. Si la distance de Kaliningrad, par exemple, à Londres en ligne droite n'est que de 880 km, alors un missile nucléaire hypersonique volera certainement vers Fog et Albion et le frappera à coup sûr. Avec des Zircon nucléaires à bord, non seulement les SNLE, mais aussi par exemple les SNLE des projets 885H et 885M HM et les sous-marins nucléaires prometteurs Hachki peuvent constituer un réel danger pour les États-Unis eux-mêmes, a déclaré la publication Reporter. Cependant, étant donné que les essais de ces armes pour les sous-marins se poursuivront au cours des prochaines années, les ogives nucléaires des missiles hypersoniques aux Zircon, si elles apparaissent, ne seront probablement disponibles qu'en 2030.